Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Fermez le bar, c'est pour ce soir. 11 métropoles concernées et des cafetiers consternés.
La mesure qui entre en vigueur ce soir à 22h suscite colère et incompréhension.
À Marseille, où ces mesures sont encore plus radicales, restaurants et cafés fermés, on pointe du doigt l'État, incapable de gérer la crise sanitaire.
Le budget 2021 présenté aujourd'hui, qui perd, qui gagne, on vous dit tout dans le journal.
En Isère, le corps sans vie d'une jeune femme découvert à Villefontaine, sans doute celui de la jeune Victorine disparue ce week-end.
Et puis Roland Garros, ça y est, entre les gouttes, on rejoindra Corinne Boulou sur place, bien entourée avec un certain Nadal et un certain mon fils.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en forte hausse de 2,40% à 4843 points.
Et puis la tendance météo avec Anissa, ça s'arrange un peu.
Oui, un tout petit peu demain, avec un peu plus de soleil, moins de pluie et des températures qui remontent pour être enfin des températures de saison. Nous allons gagner 2 à 5 degrés demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et à partir de ce soir, certains Français vont donc devoir changer leurs habitudes.
Fini les soirées qui s'éternisent au bistrot, le dernier verre, ce sera forcément avant 22h.
Et c'est valable dans les 11 métropoles classées en vigilance renforcée, notamment à Paris, Pierre Herbulot, où les cafetiers que vous avez rencontrés dans le quartier de Montparnasse sont carrément groggy.
Oui, complètement sonné au premier jour de fermeture anticipée. Est-ce qu'il se prépare? Pas vraiment. Il n'y a aucun moyen de rattraper le chiffre d'affaires qui sera perdu tout à l'heure après 22h. C'est ce que vient de me raconter Stéphane, le patron du bistrot Piaf, qui ferme normalement à 1h du matin.
Non, c'est impossible. Aujourd'hui, sur Paris, toutes les heures comptent, aussi bien le matin jusqu'au soir, minuit, 1h du matin, surtout dans les quartiers comme ça, où il y a les cinémas, les théâtres. Donc c'est très compliqué. On va faire sans. Ouais. On n'a pas le choix. On est obligé d'enlever du monde, les mettre au chômage partiel et même peut-être arrêter complètement.
Pour son voisin, la terrasse pleine de sorties de bureau et de lycée, c'est l'incompréhension. Le virus circule-t-il vraiment plus après 22h? Et est-ce qu'il se répand moins dans les restaurants qui, eux, auront le droit de rester ouverts comme d'habitude? C'est d'ailleurs le casse-tête de Thomas. Lui a une double licence bar et restauration. Il a appelé la police et raccroche à peine avec son syndicat sans y voir plus clair.
Toutes les informations qu'on a eues et toutes les recherches qu'on a faites via le commissariat, que ce soit l'UMI et les avocats, il n'y a que des choses contradictoires. Donc il y en a un qui nous dit de fermer, l'autre qui nous dit d'ouvrir, l'autre qui nous dit on ne sait pas. Il n'y a aucune information correcte, on va dire, sur ce qui a été dit par les autorités. On ne sait pas.
Par précaution, il fermera donc son bistrot ce soir. Ses finances sont trop fragiles, dit-il, pour risquer une amende ou une fermeture administrative.
Merci pour ce reportage. Pierre Herbulot en direct du quartier Montparnasse. Et comme à Paris, à Toulouse ou encore à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Rennes, on se prépare également à baisser le rideau ce soir à partir donc de 22h.
Et on en parlera dans un petit quart d'heure maintenant avec notre invitée, la présidente Les Républicains de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
Et les rues de Marseille sont-elles bien calmes ce soir? À l'heure du pastis, aucun bar et aucun restaurant ouvert.
Le pastis, comme vous y allez. La métropole ex-Marseille obligée effectivement de se plier à des restrictions encore plus strictes qu'ailleurs.
Oui, ce que n'acceptent toujours pas les intéressés. Pourquoi ces fermetures? Pourquoi seulement chez eux?
Cafetiers et restaurateurs qui s'en prennent à l'État, ils ne comprennent pas pourquoi ce sont eux qui doivent pallier les déficiences de l'hôpital. Hôpital qui alerte depuis quelque temps sur le risque de saturation, Nathalie Chevance.
Et oui, avec en prime cette tribune signée par 19 médecins face à l'aggravation de la situation, initiative inédite pour expliquer qu'ils sont conscients des conséquences terribles de cette crise sur l'économie, mais aussi pour faire comprendre à la population que les hôpitaux sont proches de la saturation, avec en perspective la déprogrammation de certaines opérations, comme l'explique le docteur Veitz, responsable de l'unité Covid à la Timone.
Il y a de grosses difficultés pour les patients qui sont non-Covid, ça les gens ne s'en rendent pas compte. On va peut-être devoir vivre des semaines, voire des mois avec ces deux populations de Covid et non-Covid. Clairement, il faut tout faire pour maintenir les activités habituelles non-Covid dans nos hôpitaux.
Tout cela avec un manque de lits en réanimation et de personnel, une situation qui n'est pas nouvelle, dénonce Bernard Marty, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Bouches-du-Rhône.
On se rend compte qu'on recommence à l'hôpital le même scénario que celui du mois de mars, puisqu'on nous dit depuis toujours qu'il va y avoir une deuxième vague. Et ils ont fait quoi pendant tout l'été pour la deuxième vague? Rien. À un moment donné, on est ministre de la Santé, on prend ses responsabilités, on fait en sorte que ces hôpitaux soient en capacité de recevoir les malades. Et on ne fait pas porter la responsabilité aux bars, aux cafés, aux restaurants. C'est un peu facile.
Et ce soir, d'après les derniers chiffres de la PHM, plus de la moitié des malades en réanimation sont des patients Covid. soit une cinquantaine de personnes.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Et on précise, on rappelle que la Guadeloupe est également concernée par cette fermeture totale des bars et des restaurants pour 15 jours au moins.
Oui, et il n'y a pas que les cafetiers qui sont désemparés, les intermittents du spectacle également.
C'est vrai qu'on en parle un petit peu moins ces derniers temps, mais ils sont mobilisés toujours et encore, et notamment aujourd'hui à Lille, pour dénoncer eux aussi des mesures trop strictes qui tuent leur profession à petit feu. Katie Gourlet est directrice artistique d'une compagnie de danse.
On est tous à l'arrêt, on est à l'agonie, à l'asphyxie, et je pèse mes mots en disant ça. Nos contrats sont annulés tous les jours, j'ai des appels pour annuler mes contrats. Enfin, moi je suis directrice artistique d'une compagnie qui emploie une trentaine d'artistes chaque année. Sauf qu'on est tous sur le carreau. Tous les jours, je dis à mes artistes, bah, écoutez, je suis désolée, on ne bossera pas. Ce qu'on veut, évidemment, c'est pas être assisté, mais si on n'a pas le choix, si on nous interdit de faire notre métier, on n'a pas le choix, il faut nous aider. Mais c'est vraiment toute la filière qui est en demande au secours, aidez-nous. Alors, je pense que le gouvernement se dit qu'on n'a pas besoin de nous, sauf que le public dit qu'il a besoin de nous, et on a besoin d'eux. Donc, ce n'est pas seulement le travail qui manque, c'est aussi le plaisir de le faire.
Katie Gourlet qui manifestait ce matin, elle était au micro Europe 1 de Lionel Gougelot à Lille.
18h06, pour soutenir la reprise de l'économie française, mise à mal par l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé, on le sait, d'ouvrir grand les vannes de la dépense publique en 2021.
Et le projet de loi de finances pour l'an prochain a donc été présenté ce matin, centré sur le plan de relance de 100 milliards d'euros qui a été annoncé début septembre.
Et comme toujours dans un budget, plan de relance ou pas, il y a des gagnants et des perdants. Carole Ferry, quels sont les ministères qui vont voir leur crédit augmenter ou au contraire diminuer?
Alors, le plus gâté cette année, c'est le ministère de la Justice, avec un budget en hausse de près de 8%, de quoi financer 1500 embauches et fluidifier le traitement des dossiers. Autre ministère a bénéficié d'une enveloppe supplémentaire, l'Intérieur, 200 millions d'euros en plus et 130 nouveaux postes. Le ministère de la Défense obtient, lui, 1,7 milliard en plus pour financer de nouveaux programmes d'armement. C'est la continuité de la loi de programmation militaire. Dans les perdants, vous avez le ministère de l'Économie. Je vous ai parlé des embauches, mais en contrepartie, il faut des réductions d'effectifs pour avoir un équilibre global. La Direction générale des finances publiques va donc supprimer plus de 2000 postes. Enfin, le secrétariat aux anciens combattants perd 100 millions d'euros.
Alors, le ministre de l'Économie a redit ce matin qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Et bonne nouvelle, alors pas pour les écologistes, mais pour les automobilistes, le malus au poids est écarté. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de taxe en fonction du poids de votre voiture. En revanche, Carole, le malus sur les véhicules polluants, lui, eh bien, va augmenter.
Oui, exactement. Aujourd'hui, le malus peut aller jusqu'à 20 000 euros sur les véhicules les plus polluants. Ce plafond va passer à 40 000 euros, mais là, on est vraiment sur les voitures un peu exceptionnelles, du style Lamborghini et autres. Ce qui risque de toucher plus de monde, c'est que le seuil qui déclenche le malus va passer de 138 grammes d'émissions de CO2 au kilomètre à 131 grammes l'an prochain et 123 en 2022. Et alors là, ça concernera vraiment la plupart des SUV et voitures familiales. Les constructeurs sont en train de dresser la liste des véhicules concernés dès le 1er janvier. Pour ce qui est de la taxe dont vous parliez, en fonction du poids, alors c'est vrai, elle est annulée pour cette année, mais il n'est pas impossible qu'elle revienne sur la table l'an prochain.
On suivra ça. Merci Carole Ferry du service Éco d'Europe 1.
Vous êtes mal, Isabelle, avec vos deux Ferrari. 18h08, on se retrouve dans quelques instants dans votre journal de 18h. Un corps retrouvé en Isère, sans doute celui de la jeune Victorine disparue avant-hier.
Et puis Roland Garros, ça y est, le roi de la terre battue, Raphaël Nadal, est arrivé.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 18h10, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Et on vous le disait, la découverte d'un corps aujourd'hui en Isère, deux jours après la disparition de la jeune Victorine. Elle avait 18 ans.
Un corps qui n'a pas encore été formellement identifié, mais dont l'identité ne fait guère de doute, Jean-Luc Boujon.
Effectivement, Isabelle, et c'est ce que devrait confirmer d'ici quelques minutes la procureure de Vienne qui est sur place depuis ce matin et qui doit tenir une conférence de presse de façon imminente. En fait, tout incite à croire qu'il s'agit bien du corps de la jeune étudiante car avant de retrouver le cadavre à proximité d'un ruisseau, ce sont ses baskets, son sac à main et un masque chirurgical qui ont été découverts à proximité. C'est là que le chien Saint-Hubert de la gendarmerie a marqué assez rapidement. Et tout l'après-midi, les techniciens du service d'identification criminelle de la gendarmerie ont travaillé sur place justement pour identifier le corps, un corps qui ne serait pas dénudé selon nos informations. Mais d'ores et déjà, la procureure de Vienne a indiqué à la mi-journée qu'il ne s'agissait vraisemblablement pas d'un accident. La piste criminelle est donc privilégiée pour l'heure, ce qui devrait conduire le parquet de Vienne à se dessaisir de cette affaire pour la confier au parquet de Grenoble compétent en la matière. L'enquête a déjà démarré pour savoir ce qui a pu se passer. Le chemin proche du ruisseau est passé au peigne fin. Le chien renifleur est toujours sur place avec les enquêteurs. Évidemment, chacun pense à une mauvaise rencontre puisque la jeune femme a disparu samedi vers 19h après avoir averti ses proches qu'elle rentrait à la maison. Elle se trouvait alors à proximité du stade de la Prairie à Villefontaine, lui-même proche de ce fameux ruisseau.
Jean-Luc Bougeon dans l'Isère pour Europe 1.
Trois jours après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, vendredi, six gardes à vue sont toujours en cours, dont celle de l'assaillant présumé.
Les enquêteurs ont encore des doutes sur son identité et sur son âge. Donald Trump cherche la riposte après les révélations explosives du New York Times sur sa situation fiscale. Le président américain sur la défensive, à la veille de son débat qui sera crucial face à Joe Biden.
Emmanuel Macron lui est en Lituanie, le président attendu au tournant sur la crise en Biélorussie. Il rencontrera demain, c'est une annonce forte, la figure de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya.
Le président français qui a lancé un appel au calme ce week-end après le regain de tension entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. De nouvelles victimes aujourd'hui encore dans des combats meurtriers au Nagorno-Karabakh. Et le président turc qui s'en mêle, nous dira Didier François dans votre journal de 19h.
18h12, on va faire un petit détour par Roland-Garros, tiens maintenant.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Roland-Garros, avec Corinne Boulou et avec du lourd, Corinne, sur les cours en ce moment. Le numéro 1 français et le tenant du titre.
Oui, Raphaël Nadal qui retrouve le court Philippe Chatrier, toit ouvert, qu'il avait quitté en juin 2019 en vainqueur. C'est en automne qu'il entame donc la quête d'un 13e titre ici à Roland-Garros. Ça se passe bien pour le tenant du titre, puisque le numéro 2 mondial, l'Espagnol, mène 1-7-0. Il s'est imposé dans la première manche face au Biélorusse Gerasimov, 49e mondial, 6 jeux à 4. Sur le court, Suzanne Lenglen, c'est plus compliqué pour Gaël Monfils face au Kazakh Bublik, 49e mondial. Bublik qui a pris la première manche alors qu'il était mené 3-0 par le numéro 1 français au début du set. Finalement, Gaël Monfils s'est déréglé. Bublik est rentré dans la partie et c'est lui qui a remporté la première manche. 6 jeux à 4. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Corinne Boulot. À noter que la qualification de deux Français ce lundi, Pierre Hugerbert et le jeune Hugo Gaston. Il a 20 ans, c'est son premier Roland-Garros.
Alors lui n'est pas franchement un petit nouveau, c'est même une figure de Roland-Garros et du sport en général. Nelson Monfort a fait des siennes, tiens, tiens.
Eh oui, involontairement, le journaliste célèbre, on le sait, pour ses interviews. Il s'est fait remarquer. Il avait en
et
fait...
son accent.
Oui, aussi.
Britannique.
Il n'avait pas pris en compte l'absence de public et donc de bruit. Et alors qu'un match était en cours, eh bien on l'a entendu poser des questions et parler à voix haute, trop haute, tellement fort en tout cas, que ça a gêné les joueurs qui, avec l'arbitre, ont dû lui demander de baisser d'un ton.
Nelson ! Merci monsieur. Merci. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Nelson, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Tout un nom. S'il vous plaît. Merci.
On rigole, mais heureusement qu'il est là quand même pour mettre un peu d'ambiance cette
oui,
année.
Oui, Isabelle, merci, exceptionnel. Non, j'arrive
sacré
pas à faire son imitation, c'est complètement raté.
On peut mieux faire.
Merci Isabelle, on se retrouve à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le grand journal de l'info.
Ah, Canteloup a du souci à se faire.
Et oui, et oui. Merci Anissa. La météo avec vous, avec une France coupée en deux pour demain.
Oui, alors la frontière se situe au niveau de la Loire, avec sur la moitié nord demain un ciel couvert avec des averses dans l'après-midi. Le ciel va s'éclaircir avec un temps qui redevient sec. Sur la moitié sud, c'est là qu'il fait beau demain, dès le début de journée, avec prudence sur l'Occitanie, le Massif central et la Corse, des brumes matinales. Le Mistral souffle aussi dans le sud toute la journée, avec des rafales jusqu'à 60 km/h. Le soleil sera de plus en plus généreux au fil des heures. Les températures, elles sont encore fraîches demain matin, avec 0 à 14 degrés. Et dans l'après-midi, ça y est, le mercure remonte pour des températures qui sont en fin de saison, avec 15 degrés à Belfort, 16 à Saint-Étienne, 17 à Clermont-Ferrand, 18 à Paris, 19 à Lille, Lyon et Rouen, 20 à Carcassonne, 22 à Marseille. Et la maximale est prévue pour Nice avec 24 degrés.
24 degrés. Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe 1, Julien Bugier.
18h15, dans quelques secondes, elle pourrait être, qui sait, la prochaine présidente de la République française. Valérie Pécresse est ce soir notre invitée. À tout de suite.